Alléluia. Je vais commencer par un petit exercice. J'ai une pierre ici avec un verset de chaque côté. Et je crois que ce sont deux versets qui sont des versets clés du récit de Pâques. Alors je vais la faire passer parmi vous. Vous la gardez au moins une trentaine de secondes. Vous avez le droit de la toucher. Alors pour les puristes, elle vient pas d'Israël, hein. Elle vient de nos côtes. Mais il me semble que l'histoire de Pâques, le récit de Pâques, le récit plus que l'histoire, est un récit qui parle et qui est centré autour d'une histoire de pierre. Et donc ça me semblait intéressant d'être très concret. Donc touchez là, lisez les deux versets, puis au bout d'une trentaine de secondes, passez là à votre voisin. Puis elle va circuler comme ça dans l'assemblée. Nous sommes sur ce temps de week-end pascal avec un temps qui a commencé vendredi soir, comme le disait Michel, avec une lecture, une seule et simple lecture sans commentaire des récits de la Passion. Et nous nous sommes arrêtés vendredi soir. Et quand je dis on s'est arrêté, c'est vraiment le cas. J'ai vu arriver les gens au fur et à mesure, on était une cinquantaine, me semble-t-il, entre 50 et 60, dans cette salle-là. Et j'ai vu les gens arriver fébriles, un petit peu à l'arrache de la vie quotidienne. Moi, j'ai dû m'extraire de mon bureau, ce qui n'est pas chose facile, pour être là à 5h et quart, etc. Et puis, j'ai vu les personnes arriver, et on voyait bien que chacun arrivait de son activité professionnelle, familiale, etc., avec cette agitation que nous avons tous dans la vie quotidienne. Je rappelais, mercredi soir, au cours de la réunion de prière, que dans le psaume 1, une des traductions possibles, en tout cas, qui est faite en français, c'est « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le chemin des méchants », etc. Et « méchant », dans certaines traductions, c'est « agité ».« Heureux celui qui ne marche pas avec ceux qui sont agités, hein, plutôt que pécheurs ». C'est une traduction possible de l'hébreu, en tout cas, semble-t-il. Et je trouve que parfois, on est tous très agités. Agité dans notre vie, agité dans notre quotidien, sollicité, et c'est tout à fait normal et légitime, par nos études, par notre travail, par nos enfants, notre famille, etc. Et vendredi soir, nous sommes arrivés là, tout le monde était un petit peu dans cet état-là, on s'est assis et on a commencé à lire l'Écriture. Et on a centré notre attention sur ces textes qui nous parlent du sacrifice de Christ, de l'amour de Dieu qui a pris forme humaine dans le Fils, au milieu de nous, et qui est allé jusqu'au bout. Et ce bout, ce terme, c'était la croix et la mort. Et j'ai vu dans l'assistance, en quelques instants, la confrontation à la parole faire que, tout à coup, chacun s'est posé et s'est placé face à face avec le Seigneur, face à la parole, à l'écoute de cette parole. On a eu quelques musiciens qui nous ont fait des pauses, des respirations dans ces lectures. Et je les en remercie encore pour ceux qui ont permis ces temps de respiration, qui, moi en tout cas, m'ont permis à chaque temps de pause de me laisser porter par cette musique, mais aussi de me recentrer sur cette parole que je venais d'entendre. Ça a duré une heure. C'est long, une heure. C'est court, une heure. Une heure pour se poser et laisser la parole de Dieu pénétrer en nous. Je vous invite, même si vous n'êtes pas venu à ce temps, eh bien de le faire pendant ce week-end, dans les jours qui viennent, de prendre une heure pour lire simplement le récit de la Passion, rien d'autre. C'est une confrontation merveilleuse. J'ai entendu la prière de Dalila. Quelle chose terrible que l'homme ait pu juger Dieu. Quelle chose merveilleuse que Dieu ait accepté d'être jugé par les hommes. Alors ce temps m'a conduit à reprendre le texte de l'évangile de Jean, et je vais le relire, du chapitre 20, verset 1 au verset 18, c'est au moment de la résurrection. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Merci Seigneur de nous donner d'entendre ta parole, mais de ne pas simplement l'entendre, de la laisser pénétrer en nous et transformer nos vies. Tu es cette parole vivante qui a pris place au milieu des hommes. Tu nous as envoyé l'Esprit afin que cette parole demeure en nous et qu'elle nous conduise dans toute la vérité. Ce matin, Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité. Donne-nous d'accepter tous les changements que ta parole reçue et acceptée peuvent engendrer. Donne-nous d'être des disciples avec une oreille attentive et un cœur plein de reconnaissance et d'amour envers celui qui parle, envers toi. Amen. Je ne sais pas si vous avez ce problème que j'ai moi souvent, ou que j'ai eu souvent, c'est que je ne savais pas écrire Pâques. Je n'ai jamais eu ce souci. Je me disais, on met un S ou on ne met pas de S à Pâques ? On met un S ou on ne met pas de S à Pâques ? Qui met un S à Pâques ? Ouais. Qui n'en met pas ? En fait, on l'écrit avec les deux orthographes, mais pas pour les mêmes raisons. Quand j'écris une affiche, j'ai préparé des affiches pour la célébration, et à chaque fois je me dis, attends, rappelle-toi, tu mets un S ou tu ne mets pas de S. Et en fait, Pâques s'écrit avec ces deux orthographes, sans S et avec un S. Alors ça fait pas, il n'y a pas de S parce qu'il y a plusieurs Pâques, mais en fait, la langue française distingue la Pâque juive, qui s'écrit sans S, c'est un événement et c'est la fête Pascal des Juifs, c'est-à-dire le moment où Israël commémore sa sortie d'Égypte et la liberté retrouvée des enfants d'Israël, Alors que la fête chrétienne, elle est multiple. Parce qu'elle parle à la fois de commémoration de la dernière scène, elle parle aussi de la passion du Christ, elle parle de sa résurrection, et c'est, je dirais, cette dimension, ces dimensions-là qui sont marquées par le S du mot Pâques dans notre tradition chrétienne. Alors, je trouvais que c'était intéressant de faire ce distinguo. C'est vrai qu'il y a une Pâque juive qui a été réalisée un jour et qui est commémorée. Et nous, nous avons Pâques au pluriel qui sont, je dirais, à la fois l'institution de la scène, le moment de la crucifixion, de la passion, la résurrection. Puis j'aime à croire aussi que Pâques est au pluriel parce qu'il faut que Pâques soit pour nous présente chaque jour. Chaque jour devrait être pour nous et pour chacune de nos vies un temps de Pâques. Un temps où nous puissions dire, voilà, aujourd'hui je suis au bénéfice de ce sacrifice à la croix. C'est seulement au XVe siècle que la distinction a été faite entre, je dirais, la marque singulière de la Pâque juive et plurielle de la Pâque chrétienne. Alors la Pâque juive, c'était cet agneau sacrifié, indemne de toute tare, dont on a badigeonné le sang sur les montants des portes, afin que l'ange de la mort ne touche pas le peuple d'Israël. C'est de là que vient le mot Pâques, hein, qui est transité par le latin, le grec, mais l'origine c'est Pessah, le passage de l'ange de la mort sur le pays d'Égypte. L'agneau qui a été sacrifié et dont le sang a été mis sur les linteaux. Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu dont la symbolique nous permet dans la fête de Pâques d'amplifier encore la réalité de cet agneau, de cette Pâque juive transformée en Pâque chrétienne, parce que l'agneau de Dieu s'est donné sur ce temps où Israël fêtait la Pâque. Il s'est donné lui aussi comme cet agneau dont le sang a coulé sur les linteaux de la croix afin que nous soyons sauvés. Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu nous donne des signes comme ça. Et certainement pour Israël, ça a dû être, en tout cas pour ceux qui étaient disciples de Christ, un temps de révélation tellement fort tout à coup de réaliser que sur ce temps de Pâques d'Israël, l'agneau parfait était venu pour donner sa vie, une fois pour toutes. Je ne sais pas comment ont fait les disciples l'année d'après, les 2 ans après, les 3 ans après. Est-ce qu'ils ont fêté cette Pâque ensemble? Est-ce qu'ils l'ont commémoré, cette Pâque du Christ sacrifié? Mais en tout cas, ça a dû prendre une dimension tout à fait particulière. J'aime beaucoup quand les Juifs messianiques parle des choses de Dieu et notamment des choses de Christ, parce qu'ils y trouvent une profondeur, une richesse qui parfois nous échappe, mais qui est liée aussi à leur compréhension que quand Christ dit à la croix « tout est accompli », ils comprennent que tout est accompli de l'ancienne alliance en Jésus-Christ. J'ai lu des passages du pasteur Guénassia, qui était c'est quelqu'un qui a donné de l'enseignement sur la Sainte Cène avec un regard messianique qui était fabuleux. Et je trouve qu'il y a là dans le peuple d'Israël qui a découvert Christ une richesse fantastique. S'il n'y a qu'un sacrifice, je pense effectivement que notre vie est une suite permanente de Pâques où Christ se révèle à nous comme le ressuscité. Je nous souhaite de nombreux matins où l'émerveillement, et pas simplement le matin de Pâques, où l'émerveillement de sa résurrection nous bouleverse, nous chavire véritablement avec cette réalité, cette confrontation à son amour, sa puissance et sa gloire. Des matins où, comme Marie-Madeleine, dont on a lu le récit, nous allons avertir nos frères et nos sœurs que la pierre a été roulée, que la résurrection est accompli. Des matins ensoleillés qui balaient les ténèbres de la nuit et du doute pour dire que les choses anciennes ne sont plus. Que la lumière a vaincu et qu'un nouveau jour s'est levé. Comme Marie-Madeleine, je dirais que je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai pas toutes les réponses, mais les faits sont là. La pierre est roulée et le changement de Dieu est en route. Alléluia. Alléluia. Ah, je fais circuler une pierre parce que je crois profondément qu'au matin de Pâques, cette pierre roulée est un élément essentiel dans le récit. Dans l'évangile de Marc, il est dit ceci que lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil et elles disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Une histoire de pierre à rouler. D'actes à accomplir. En fait, le récit de Pâques, ce qui provoque le bouleversement des choses établies, de l'entendement, du rationnel, du raisonnement, ça commence avec cette pierre qui est roulée et ce tombeau qui est vide. C'est là que commence la confrontation à cette évidence dont il est dit dans l'évangile de Jean. Il ne comprenait pas, il ne se rappelait pas que Christ devait ressusciter. La pierre roulée, c'est le premier mouvement d'un magnifique concerto, celui de la résurrection. Alléluia. Est-ce que vous imaginez seulement un instant si en arrivant au tombeau, Marie avait trouvé la pierre en place, si elle n'avait pas été roulée, dévoilant un tombeau vide? Qui va nous rouler la pierre? Qui va nous rouler cette pierre? Dans le récit de Marc, on voit qu'il y a plusieurs femmes qui se déplacent jusqu'au tombeau. Dans celui de Jean, on est plutôt centré sur Marie-Madeleine. Ce ne sont pas des erreurs. Au IIe siècle, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment par Chrysostome, sur la comparaison entre les différents évangiles, notamment les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et puis l'évangile de Jean qui donne un éclairage différent. Alors on a pu penser que c'était des oppositions, mais quand on travaille ces écrits dès le IIe siècle, on s'aperçoit que tout se complète. À un moment donné, Jean met l'éclairage sur Marie-Madeleine, à un autre moment, on les voit, elle et d'autres femmes, s'approcher du tombeau. Qui va nous rouler la pierre? C'est la réalité. On a suivi Christ pendant plusieurs années, on a marché à côté de lui, on a vu des choses merveilleuses s'accomplir, on a vu cet homme prendre une dimension qui a dépassé celle de la simple humanité. Et là, il a été arrêté, battu, bafoué, humilié et crucifié. Quelles étaient les pensées de ces femmes se rendant au tombeau? Celles d'une défaite, peut-être. Des pensées de tristesse pour un homme qu'elles avaient aimé et qu'elles aimaient encore, au point de se rendre en plein moment de la fête de Pâques au tombeau. Je me suis posé la question, il y a un temps pour embaumer les morts, mais c'était le temps de Pâques, pas le meilleur moment pour toucher un mort. Il y a des choses qui nous paraissent peut-être un petit peu secondaires, mais je pense au moment où les disciples, mais aussi tous les Juifs, se sont arrêtés et ne sont pas rentrés chez Pilate. Certains pensent que c'est en lien aussi avec cette idée que la Pâque devait venir et que pour fêter la Pâque et garder sa pureté, il était hors de question de rentrer dans le logement d'un étranger, fût-il procurateur de Judée. Je pense qu'il y a de cela lorsque le jugement de Christ se passe en dehors, parce que on veut bien le crucifier, mais on ne veut pas s'exclure de la fête de Pâques qui vient. Quelle drôle de position, quelle drôle d'attitude. Est-ce que les femmes qui s'en vont au tombeau ont cette même pensée? On préfère aller embaumer le corps de Christ, être en contact avec un mort plutôt que de fêter la Pâque juive. Il y avait toutes ces pensées-là dans la tête de ces femmes. Est-ce que Jean n'est pas rentré dans le tombeau parce que il était aussi avec cette pensée, est-ce qu'on peut rentrer dans un tombeau, un sabbat, et en plus, avec la fête de Pâques qui s'annonce, Pierre n'a pas hésité d'y rentrer. Parce que le plus important, c'était d'être confronté à cette réalité de l'Évangile. Qui nous roulera la pierre ? Il y a 15 jours, Francine et moi, on a reçu un couple de l'église d'Hermont avec leurs 4 enfants. Et ils venaient d'Hermont, ils allaient à Quimper, et puis c'est Sylvie et Serge, pour ceux qui les connaissent. Et on a eu de la joie à partager 2-3 heures ensemble. Et à un moment donné, Sylvie me dit, mais t'aurais pas des idées de balade pour les enfants pendant cette semaine de vacances ? Alors, j'ai réfléchi, il y a un site sympa pour aller se balader, c'est le Huelguat. Le Huelguat, je me demande, mais c'est quoi le... Comment tu dis déjà le Huelguat? C'est pas facile, le breton pour des Parisiens. Et je lui explique, c'est un superbe parc, avec aussi un site avec des enrochements impressionnants, de grosses pierres noires. Si vous n'êtes pas allé vous promener là-bas, allez-y. Et puis, il y a sur ce site-là un élément assez étonnant. Je lui explique, je dis, au milieu du Huelguat, il y a une pierre. C'est un gros parallélépipède de 137 tonnes. Pas mal, hein ? Mais, si vous savez où appuyer, un enfant de 12 ans peut faire bouger ces 137 tonnes. Alors là, les 4 enfants ont été là, on va dire, ah bon ? Alors tout à coup, la promenade devenait intéressante. Le Huelguat, ça les a... Mais une pierre qu'on peut bouger de 137 tonnes tout seul... J'expliquais, je dis oui, il y a un endroit, mais un seul endroit, où on se met. Alors, il ne faut pas se mettre en poussant dessus, il faut se mettre dos à la pierre, se baisser un peu avec ses genoux, s'appuyer et pousser sur ses jambes. Et vous avez les 137 tonnes qui bougent. Alors, les enfants étaient étonnés, émerveillés. Ils disaient, oh, ça, c'est génial. Alors, ils sont allés. Et puis, j'avais, avant qu'ils partent, j'avais une des jeunes, je lui avais dit, écoute, je vais te dire où est l'endroit, comme ça tu étonneras ta famille. Et je lui ai expliqué. Le lundi, ils sont allés là-bas, et j'étais en pleine réunion, j'étais au travail, un message, on est à la pierre du Huelguat, on est autour, mais on ne trouve pas l'endroit pour la faire bouger. Alors j'ai discrètement tapé un message en disant, j'ai donné la solution à, je ne sais plus, à la grande fille, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'est leur grande fille. Et puis elle dit, oui, mais elle n'est pas venue avec nous. Ah, dommage. Alors du coup, elles ont appelé la grande fille, puis elle dit, tu as eu la réponse, alors tu sais, il faut appuyer. Elle leur a expliqué. Message suivant, on a fait bouger 137 tonnes tout seul. Génial. Faut savoir, hein. Ah, ils étaient impressionnés, les enfants voyaient la pierre vaciller, 137 tonnes, juste en s'appuyant dessus. Ouais. Il y a des pierres comme ça, on appelle ça la pierre tremblante de Huelguat. Mais les femmes, Marie-Madeleine et les autres, sont venues au tombeau en se disant, mais qui va nous rouler cette pierre ? Là, on n'a pas de solution. Qui va faire en sorte qu'on puisse avoir accès aux morts ? Elles étaient conscientes que sans aide, c'était impossible. Pas d'ouverture. Et sans ouverture, pas de possibilité d'accomplir ce qui devait être. Elles se rendaient parfaitement compte qu'elles étaient face à un obstacle et que leur bonne volonté allait se trouver confrontée à la réalité de cette pierre qui masquait le tombeau. Personne pour les assister dans leur démarche, personne pour les aider à rouler la pierre. Alors, quand elles arrivent et qu'elles voient le tombeau ouvert et la pierre, et dit même quasiment disparue, cette pierre roulée est bien le véritable point de départ de tout ce qui va suivre. Et n'ayons donc pas peur de dire, sans pierre roulée, il n'y aurait pas de bonne nouvelle. Sans pierre roulée, sans tombeau ouvert et sans tombeau vide, il n'y aurait pas de bonne nouvelle. Le miracle de l'Évangile se trouve là. Cette vérité est élémentaire. Et elle est tellement forte que Jean, avec cette grande sobriété qui lui est chère, présente l'affaire comme une évidence. Il y avait une grosse pierre à l'entrée de la tombe. Marie voit qu'on l'avait enlevée. Tout est dit en quelques mots. On l'avait enlevée. Quel choc. Par contre, Matthieu, lui, ne se compte pas d'une telle sobriété. Pour lui, la question est certainement plus importante. Elle justifie même les moyens les plus puissants. Et il dit dans son évangile, « Et tout à coup, il y a un grand tremblement de terre, un ange du Seigneur descend du ciel, il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus, il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. » Dans la réalité de Matthieu, le témoignage qu'il en donne en tout cas, il est confronté à cette puissance divine, un ange du Seigneur, un messager divin. Et à partir de là, le récit des évangiles s'emballe et on se trouve confronté à la résurrection de manière frappante. L'annonce aussi qui est faite aux femmes, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, regardez, voici l'endroit où l'on avait déposé, mais allez dire, la confrontation à la résurrection de Christ, si elle nous stupéfait, si elle transforme notre vie, fait de nous des témoins. Lorsque j'ai quitté cette salle vendredi soir, on a un acte qu'on a posé depuis l'année dernière. Alors, je ne sais pas si ça va devenir une tradition, mais je la trouve belle. C'est que j'ai fait fabriquer des pains, des petits pains en forme de poisson. Alors quand je suis allé chez le boulanger pour lui dire « Écoutez, je voudrais des pains, mais il m'en faudrait 80 et en forme de poisson », il m'a regardé. Et nouveau, c'est un nouveau boulanger à Kevin, il a dû se dire « Les Kevinois ont des demandes bizarres. Des pains en forme... » Alors je dis « Bon, est-ce que c'est possible ?» Il dit « Bah, oui, tout est possible. » Alors j'ai discuté le prix parce que je suis quand même... Je suis pas... un négociateur pour rien, donc je dis, alors on les fait à quoi ? Elle me dit, je sais pas, qu'est-ce que vous voudriez ? Ah, je dis, c'est moi qui choisis, 25 centimes, ça ira bien. Donc on avait 80 pains, et le principe, c'est que lorsque la célébration est terminée, chacun reçoit un pain, un petit pain. Mais ce pain-là, il n'est pas fait principalement pour le être mangé par celui qui le reçoit. C'est un pain de Pâques, qui trouve toute sa signification dans cette parole de Christ qui disait « Je suis le pain de vie » et qui nous renvoie au pain que nous avons partagé tout à l'heure. Et ce pain de Pâques, vous le prenez et vous allez le donner à quelqu'un, à votre conjoint, à un ami, à un proche, à un voisin. Et vous lui dites simplement ceci, « Voilà, aujourd'hui c'est la fête de Pâques et pour moi ça a tout un sens. » Alors je voudrais simplement partager ce pain avec toi. Faire que ce pain de Pâques, ce que j'ai reçu, je puisse le partager. Allez dire. Puis à chaque fois, je dis, bon, je mets ça en place, puis après je me dis, ah oui, mais qu'est-ce que j'en fais moi de mon pain ? Alors l'année dernière, j'étais en voiture, j'ai dit, ah oui, un tel. Et je suis allé voir des amis du côté de Kevin. Et je frappais... 7h30 le soir, 8h. Donc voilà, je vous apporte un petit pain. Mais j'expliquais à cette amie et à son mari, voilà, vous savez que nous sommes croyants, Francine et moi. Eh bien, pour nous, aujourd'hui, c'est un temps important. Nous commémorons, nous nous rappelons, comme l'a dit Juliette dans sa prière, nous nous rappelons ce que Christ a accompli pour nous. C'est ce week-end-là où nous nous rappelons particulièrement de cette grâce qui nous a été faite. Eh bien, j'ai été étonné l'année dernière comment cette femme, avec laquelle on partage peu la foi les choses de Dieu, parce qu'on voilà, on laisse sa liberté aussi, mais combien elle a été touchée, elle nous a dit, mais c'est quelque chose pour moi qui est tellement important aussi, cette notion de Pâques. Et j'ai été surpris parce que ce n'est pas des choses qu'elle me disait. Juste en offrant ce pain. Et cette année, vendredi soir, je suis parti d'ici. Puis coup, je me suis dit, ah, qu'est-ce que j'en fais de mon pain ? Et il se trouve qu'il y a un couple dans notre rue qui est chrétien, mais qui, moi, bon, mis pour des raisons personnelles, de la distance avec l'Église. Et je me suis dit, mais c'est à eux qu'il faut que j'aille. Et je suis allé frapper à la porte à 8h du soir pour donner ce pain, pour partager ce pain. Alors j'ai vu que la jeune femme, pour ceux qui la connaissent, c'est Marine. Et puis je lui ai offert ce pain de Pâques en disant, tu sais bien, c'est Pâques ce week-end. On vient de passer un temps autour de la passion du Christ dans la parole de Dieu. J'avais envie de partager ce pain avec toi. Allez. Et allez dire. Répétez. Dans cette nuit, Marie de Magdala nous confronte à cette pierre roulée, comme une porte ouverte sur l'inconnu, comme un point d'interrogation. Le tombeau, c'est une question ouverte. Voilà, la pierre est roulée, le corps n'est plus là, c'est une porte ouverte sur l'inconnu. Et vous vous rappelez que lorsque Marie de Magdala est allée voir les disciples après avoir été confrontée à ce vide, à cette absence, elle est retournée voir Pierre et Jean et qu'elle leur a dit « On a enlevé le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis ». Or, dans l'évangile de Jean, il est parlé que de Marie de Magdala. C'est dans l'évangile de Marc où elle est présentée avec les autres femmes. Et pourtant, dans le texte, cette femme, dont on nous dit qu'elle est quasiment seule, dit « Nous ne savons pas où on l'a mis ». Quelque part, seule ou pas, elle n'est pas encore dans une démarche personnelle, mais elle met tout sur du collectif. « Nous ne savons pas ». Vient l'épisode où Pierre et Jean se mettent à courir et puis arrivent au tombeau. Et Marie reste dans ce « nous ne savons pas ». La question de la résurrection, c'est une question où il s'agit de passer du « nous » au « je ». Du « nous » au « je ». Et un pasteur disait « la seule manière de passer du « nous » au « je », c'est de passer par la phase « je nous ». Ouais. C'est-à-dire dans une attitude de soumission, une attitude, je dirais, quasiment corporelle, ou intérieure en tout cas, l'intérieur est plus important que le corporel, mais une attitude où nous soyons véritablement à genoux devant Dieu en disant, là maintenant, ce qui se passe, c'est entre toi et moi, entre toi et je. Et Marie-Madeleine va faire ce chemin-là. Lorsqu'elle est interpellée par la disparition du corps, qu'elle va voir les disciples, elle dit « Nous ne savons pas où il a été mis ». Et lorsqu'elle voit les anges et qu'ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis ». Tout à coup, la question de la résurrection n'est plus une question collective, c'est une question personnelle. Je ne sais pas. Ah. Ce « nous » de Marie, c'est nous aussi, nous en tant qu'humains d'abord. Parce que tous comprennent bien qu'à la source du christianisme, il y a une question, il y a un mystère. Que font vraiment les chrétiens aujourd'hui ? Comment ce non-événement de la disparition du corps d'un supplicié a-t-il pu changer le monde ? Parce que le jeu de Marie-Madeleine, le jeu de Jean, le jeu de Pierre a été confronté par la foi à cette réalité de la résurrection de Christ. Ce n'était plus quelque chose de collectif, c'était quelque chose de personnel. Et c'est ce qui a fait de chacun d'entre eux des témoins de la résurrection de Christ. Ah. Comment l'absence et un tombeau vide a pu transformer le monde ? Souvent, les non-croyants disent « Ah, si je voyais, si j'étais confronté à quelque chose que je voyais !» Or, le début de l'Église, de l'évangélisation, c'est une pièce vide, c'est un tombeau béant. Mais ce vide a été plus puissant dans ce qu'il disait que s'il y avait eu une proclamation avec Jésus glorieux, etc. Le tombeau vide. Et cette interrogation où on a enlevé le Seigneur et nous ne savons pas, et je ne sais pas où il a été placé, Marie ne va pas la garder pour elle, elle va la partager avec les disciples. C'est aussi ça le sens du « nous ». Elle ne garde pas cette nouvelle-là pour elle, elle va le partager. Nous ne savons pas, alors je pense que c'est un petit peu l'aveu d'ignorance de Marie, se dire « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Le tombeau vide, c'est aussi « nous ne savons pas, nous ignorons, mais nous allons chercher ensemble ». Et c'est peut-être là aussi un sens de l'Église. Le « nous » de l'Église, c'est peut-être « et si nous cherchions ensemble ?» Les mystères de Dieu, les merveilles de Dieu. Si nous cherchions ensemble tout ce que Dieu a en prévision pour l'humanité tout entière, pour l'Église, pour moi, pour toi, si nous cherchions ensemble. Quand on a fait des centres de vacances avec des enfants et qu'on fait des chasses au trésor, rien de plus beau que de voir des enfants sur un jeu de piste en train de chercher la solution. Il y a une exaltation. Qu'en est-il des chrétiens aujourd'hui ? Est-ce que nous cherchons ensemble avec les mêmes émotions, la même exaltation, ce que Dieu a en prévision pour chacun d'entre nous ? Alléluia ! Il y a des merveilles à découvrir, il y a des richesses à s'approprier, il y a des dimensions nouvelles à saisir. Alléluia ! Pour chacun d'entre nous. Peut-être que celui qui est assis à côté de moi ce matin a besoin que je l'aide à chercher les choses et les mystères de Dieu. Marie-Madeleine a été une de ces femmes qui a partagé, qui est passée du je au nous, et peut-être à genoux. Sans doute y a-t-il pour nous aussi des leçons à saisir. Cherchons ensemble. Regardez l'attitude des disciples face à l'annonce de Marie. Ils se mettent en route, ils se mettent même à courir. Simplement parce que Marie-Madeleine leur a dit « Voilà la réalité, le tombeau est vide !» Alors, Marie témoigne aussi de ce désarroi « Je ne sais pas où est mon sauveur. » Vous voyez, je et mon. Elle s'est appropriée ce qui se passe. Ce n'est plus l'histoire des autres, c'est son histoire à elle. « Je ne sais pas où est mon sauveur, mon Seigneur. Ah. » Où est mon Seigneur ? Où est celui qui donne son sens véritable à mon existence ? C'est cela la réalité de Marie-Madeleine. Jésus occupe le centre de sa vie. On a un chant qui dit ceci, Jésus soit le centre. Parfois je me demande s'il est vraiment le centre dans ma vie. Il y a des fois où je vis des expériences et puis j'essaye pendant des heures, parfois des jours, quelquefois des semaines, à trouver une solution. Et puis quand j'arrive au bout, je me dis, mais et si je demandais au Seigneur, mais combien faut-il de temps pour commencer ou apprendre à demander à Dieu avant ? Où est mon Seigneur, celui qui est au centre de ma vie ? Comment est-ce qu'il peut répondre à mes questions ? Comment est-ce qu'il peut remplir mon existence tout entière ? Comment ce tombeau vide me parle du plein qu'il veut déposer en moi ? Où est-il ? Il n'est plus dans le tombeau, mais il est en moi, en toi, en chacun d'entre nous. Et il veut prendre sa place et grandir. Quelle porte la pierre roulée du tombeau ouvre-t-elle ? J'aime beaucoup les films, vous savez, style Benjamin Gates, où il y a des trésors à trouver, hein, des trucs. Moi, j'ai commencé avec, c'était l'ancêtre de Benjamin Gates, c'était Arsène Lupin. Mais dans Arsène Lupin, il y a des scènes mémorables en Normandie. Alors, on a des amis de Caudebec. Caudebec, c'est le pays d'Arsène Lupin. Et notamment L'Aiguille Creuse, son roman, où Arsène Lupin, en fait, vous savez que l'aiguille d'Étretat est creuse à l'intérieur. C'était le repère d'Arsène Lupin. Il y avait tout un système pour aller trouver l'entrée, etc. Ouais. On aime bien ces histoires-là. Mais il y a une porte qui s'est ouverte quand la pierre du tombeau a roulé et où Christ a dit « Maintenant, je suis ressuscité ». Il a proclamé, il a démontré sa résurrection afin que cette porte ouverte nous ouvre les voies de l'éternité avec lui. Maintenant, c'est la réalité. Où est mon Seigneur ? Où est le sens de ma vie ? Est-ce qu'on m'a enlevé ce que j'ai perdu ? Et Christ répond à Marie-Madeleine, « Je suis là, je suis vivant, je suis avec toi et je suis là pour toi. » C'est cela qu'il dit à Marie-Madeleine. Et vous savez, nous sommes tous des Marie-Madeleine. en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai perdu ? De quoi j'ai besoin ? Qui peut remplir le vide de mon existence aujourd'hui ?» Et Christ répond « Je suis là. Je suis vivant. Je suis avec toi. Et je suis là pour toi. » Pour Marie, ça va être un bouleversement, un retournement, un envoi. « Va trouver mes frères et dis-leur. » Est-ce que nous le vivons cela aujourd'hui ? Est-ce que la résurrection de Christ nous met en mouvement ? Et nous met en mouvement par rapport à nous, mais aussi par rapport aux autres. « Va trouver mes frères et dis-leur. » Une mauvaise glance pastorale a dit que s'il a proposé ce travail à Marie-Madeleine, c'est qu'avec une femme, ça va plus vite. Pour répéter. Mais ce n'est pas moi qui le dis, ça. Mais ça devrait aujourd'hui remettre en cause cette pensée que seuls les hommes sont dans l'Église à une place pour servir et annoncer l'Évangile. C'est une femme, rappelons-nous cela, que Jésus a choisi pour annoncer à ses disciples qu'il était ressuscité. Ça devrait nous aider à réfléchir là aussi sur la place des hommes et des femmes dans l'Église et dans le service et dans la proclamation de l'Évangile. Le tombeau vide, c'est rencontrer un Dieu qui ne s'enferme pas et qui ne peut pas être enfermé. C'est cela, le tombeau vide. On a tellement tendance à essayer d'enfermer Dieu. Vous savez, Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela. Oh, ça c'est Dieu. L'homme essaye de définir Dieu, comme on a essayé d'enfermer Christ dans un tombeau. Mais c'est stérile comme attitude. Lorsque l'apôtre Pierre parlera dans les actes de ce qui s'est passé, il dit « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, avec qui nous avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Que s'est-il passé réellement dans cette nuit du samedi au dimanche de Pâques ou dans ce week-end pascal ? C'est un bouleversement, c'est un changement radical de toutes les données de l'humanité. Il y a dans l'Ancien Testament ce récit, vous savez, à un moment donné, il y a un homme qui meurt, les hommes vont pour l'enterrer, il y a les Moabites qui arrivent, ils disent « qu'est-ce qu'on fait ? Où on le met ?» Ils voient une tombe à côté, ils ouvrent la tombe, ils balancent le corps. C'est la tombe du prophète Élisée. Quand le corps tombe sur le prophète, les ossements du prophète Élisée, il ressuscite. Vous vous rappelez de ce récit ? C'est dans le livre des Rois. Pour moi, c'est une belle image de la résurrection de Christ. Du fait que nous sommes, en touchant Christ, des êtres ressuscités. Sauf que Élisée est resté mort et que probablement l'homme qui est ressuscité est mort, est remort. Il est remort après. Hein ? Mais c'est une belle image de ce tombeau qui s'ouvre. On lance cet homme mort et il revient à la vie. Élisée avait encore après sa mort une puissance qui lui venait de Dieu. Ses ossements en tout cas. La résurrection de Christ, ce n'est pas une résurrection temporaire. Une vie temporaire, c'est une vie tout à nouveau avec lui et pour l'éternité. Voilà quelques pensées qui me semblaient intéressantes à partager ensemble sur cette pierre roulée. Alors cette pierre, vous avez vu qu'elle portait deux textes. Le premier, c'est ce texte des femmes qui disent « Mais qui va nous rouler la pierre ?» Et puis le deuxième, c'est certainement le texte le plus court et le plus simple confronté à la résurrection, c'est l'expérience de Jean lui-même. Il est dit qu'il entra, qu'il a vu et qu'il a cru. Il entra, il vit et il crut. Cet évangile a été écrit par Jean. Il raconte sa propre histoire. Qu'allons-nous dire pour notre part de cette rencontre et de cette résurrection à laquelle nous avons été confrontés les uns et les autres ? Est-ce que nous pouvons, comme Jean, dire « Je suis entré dans ce tombeau. J'ai vu qu'il était vide et ce vide m'a convaincu. Le monde dirait, mais il faut, si le vide arrive à vous convaincre, oui, le vide, l'absence, m'a convaincu de la puissance, de l'autorité de Dieu et de ce que cette réalité représente pour moi aujourd'hui. Amen. Seigneur, nous voulons simplement confronter à ce tombeau ouvert, à cette pierre qui a roulé, te remercier pour cette évidence de la foi, cette évidence que tu es celui qui règne pour l'éternité, et que cette pierre roulée est le commencement de cette proclamation. Oui, il est ressuscité, et je veux le proclamer avec mes frères et mes sœurs ici. Nous voulons proclamer et aller vers le monde en disant « Il est ressuscité, c'est une évidence !» afin que le monde croie et puisse être touché aussi par ton salut. Donne-nous, Seigneur, là aussi d'être Marie-Madeleine, de passer du « nous » au « je », un « je » qui nous implique, un « je » qui nous rend participants à l'œuvre du salut que tu accomplis pour moi, pour nous. Que ce « je » soit un « je » qui se mette en mouvement, en action, en proclamation de tout ce que tu es et de tout ce que tu fais. Amen. Amen. Nous voulons terminer ce temps de célébration et de culte. Juste quelques annonces pour terminer. La première, c'est que il y a quelques absents. On a l'absence de Laurent et Elisabeth qui sont à Paris.